Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Xavier Sartre.
Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile, c'est le nom de l'exhortation apostolique écrite par le pape François. Il invite à une nouvelle étape évangélisatrice marquée par la joie et indique les voies pour la marche de l'Église dans les prochaines années. Nous y reviendrons longuement avec Olivier Bonnel et Mgr Fisichella, le président du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation. Nous donnerons une large place à la Syrie. On connaît la date de la conférence Genève 2, tant attendue, le 22 janvier prochain. Une annonce qui ravit notamment Mgr Jean-Bart, archevêque melkite d'Alep. La Syrie, il en a été également beaucoup question lors de la rencontre entre le pape et Vladimir Poutine. Et puis ouverture de l'assemblée plénière du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Son président, le cardinal Thorand, reviendra sur le thème de cette rencontre, le rôle des religions dans la société civile. Bienvenue dans le magazine de Radio Vatican. C'est un texte qui était très attendu et qui ne déçoit pas les attentes qu'il avait suscitées, l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile, écrite par le pape François. Elle a été remise dimanche à 36 représentants de l'Église catholique lors de la messe conclusive de l'année de la foi. Elle a été officiellement présentée ce mardi en salle de presse du Saint-Siège. Un texte très personnel de François, il y dévoile sa conception de l'évangélisation. La joie de l'Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libres du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l'isolement, écrit notamment le pape. Avec Jésus-Christ, la joie naît et renaît toujours. Dans cette exhortation, je désire m'adresser aux fidèles chrétiens pour les inviter à une nouvelle étape évangélisatrice marquée par cette joie et indiquer des voies pour la marche de l'Église dans les prochaines années, écrit-il encore dans son introduction. Les précisions, on les voit tout de suite avec vous, Olivier Bonnel.
Je désire m'adresser aux fidèles chrétiens pour les inviter à une nouvelle étape évangélisatrice, indiquer des voies pour la marche de l'Église dans les prochaines années. Dès les premières lignes, le pape explique sa méthodologie, dévoile le sens de son texte. Ce n'est pas une encyclique ni une lettre apostolique, encore moins un cours de catéchèse, mais bien une exhortation et porte donc en lui-même une dynamique, un dialogue. Le pape veut s'adresser à tous les baptisés et le fait avec son style vif et percutant dont il nous a habitués, un texte qu'il a écrit de sa main en espagnol à son retour des JMJ de Rio. Le document comporte 5 chapitres qui reprennent les conclusions du synode d'octobre 2012 sur la nouvelle évangélisation, mais va bien au-delà, laissant au pape argentin le soin de marquer son empreinte.
Oui, un document très personnel, donc. Quelles en sont les lignes directrices ?
Un mouvement joyeux d'abord. L'annonce de l'Évangile est une bonne nouvelle, là est la base. Et le pape appelle tous les baptisés afin qu'avec une ferveur et un dynamisme nouveau, ils portent l'amour de Jésus dans un état permanent de mission. Il s'agit d'abord, explique-t-il, de retrouver cette fraîcheur originale de l'Évangile. L'Église avance sans peur, elle doit faire sienne l'intimité de Jésus. La forme est importante aussi, il faut trouver l'équilibre entre le contenu de la foi et le langage pour l'exprimer. Mais pour cela, des réformes sont essentielles, souligne le pape, et c'est l'un des points majeurs de ce texte. Il faut trouver des voies nouvelles et des méthodes créatives qui n'enferment pas Jésus dans nos schémas ennuyeux. François invite donc à une réforme des structures ecclésiales pour qu'elles soient plus efficaces dans la mission. Il est nécessaire de procéder à une décentralisation salutaire, plaide-t-il, en citant de nombreuses fois les travaux de différentes conférences épiscopales à travers le monde.
Et sans surprise, Olivier, on retrouve les grandes intuitions que François développe depuis le début de son pontificat.
Oui, dans ce long texte, le pape dresse l'état d'un monde qui est un défi permanent pour l'Évangile, un monde où l'économie exclut trop souvent, où l'argent est une idole et où la violence sociale provoque des tensions. Il souligne une nouvelle fois le danger de la mondanité spirituelle, mais surtout dans le quatrième chapitre, développe la dimension sociale de l'évangélisation. Le Saint-Père réaffirme la place privilégiée des pauvres dans le peuple de Dieu, appelant à reconnaître leur force salvifique qui doit être au centre de la vie de l'Église. Quelle est l'identité de l'Église, demande le pape. Je la préfère accidentée, blessée et sale pour être sortie dans la rue, plutôt qu'une Église malade de la fermeture et du confort de s'accrocher à ses propres sécurités. Les églises doivent ouvrir leurs portes, clame-t-il, et les sacrements ne devraient pas se fermer pour n'importe quelle raison, explique encore le pape, en pensant en particulier à l'Eucharistie. Par ce texte, le pape François va au cœur des problèmes de l'homme d'aujourd'hui. Il expose surtout noir sur blanc les lignes directrices de son pontificat et livre une véritable feuille de route pour aller de l'avant.
Voilà, c'était Olivier Bonnel qui a suivi pour nous la présentation de cette exhortation apostolique. Monseigneur Fisichella, le président du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation, présentait le texte en salle de presse du Saint-Siège ce mardi. Un texte qui est pour lui un appel au dynamisme de la mission et à l'ouverture au monde.
C'est ce que le Saint-Père appelle la conversion pastorale, c'est-à-dire on ne peut pas et on ne peut plus vivre dans la situation d'une sclérotisation, c'est-à-dire la bureaucratisation de notre communauté qui ne sont pas et n'en sont plus capables de communiquer la joie d'avoir rencontré le Christ. La conversion, c'est pas seulement pour les communautés, mais c'est pour tout le monde. Le Saint-Père, il commence à dire, avant tout, c'est moi qui demande la conversion, et c'est pour les évêques, c'est pour les prêtres, les diacres, c'est pour chacun de nous qui a découvert son baptême et qui nécessite de faire de la nouvelle évangélisation sa propre mission.
Dans ce texte, il est question de témoignage de l'évangile, il y a la nature même du témoignage, mais aussi sa crédibilité dans le monde.
Oh, sans doute, il n'y a pas de possibilité de dire autrement. Là où il y a un vrai témoignage, on a aussi la crédibilité de ce que nous témoignons. Le Saint-Père le dit dans une manière très claire en disant que l'évangélisation doit prendre avant tout la condition des pauvres, des souffrants, de ceux qui sont marginalisés dans la société d'aujourd'hui. Et à cause aussi d'une économie qui n'a plus de référence avec l'éthique. Et alors, à ce moment-là, c'est la nécessité et la capacité de communiquer en premier lieu aux pauvres d'aujourd'hui, qui n'est pas seulement une condition sociologique, mais c'est plutôt la condition de l'homme d'aujourd'hui, d'annoncer l'évangile dans une manière qui touche aussi notre style de vie.
Vous avez noté un passage très important qui touche aux conséquences de la pastorale. Le cœur de l'évangile s'incarne aussi dans les limites du langage humain. Qu'est-ce que cela veut dire ?
Cela veut dire qu'on ne peut pas employer seulement l'urgence et la préoccupation d'avoir un langage qui parle de la foi et des contenus de la foi avec la précision mathématique, parce que en parlant du mystère, on ne peut pas employer une précision pareille, mais c'est plutôt le témoignage de vie, encore une fois. Et c'est plutôt la nécessité de dire que le mystère comme tel, le mystère de la foi, ne peut pas être épuisé dans notre langage. Il va au-delà et il pousse chaque jour à être découvert dans une manière toujours nouvelle.
Monseigneur Fisichella, le président du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation. Pour toutes les précisions sur ce texte, une seule adresse, www.radiovaticana.va. Autre grand moment au Vatican, c'était lundi en fin d'après-midi, la rencontre entre le pape François et le président russe. C'est avec près de trois quarts d'heure de retard sur l'horaire prévu que Vladimir Poutine, accompagné d'un cortège de 7 voitures officielles, est entré au Vatican par l'arc des cloches. Pour la quatrième fois, il a été reçu donc au Vatican, mais c'était cette fois-ci sa première rencontre avec le pape François. Au centre de leur entretien, la situation syrienne et la vie de la communauté catholique en Russie. Le compte-rendu de Marie Duhamel.
Le Moyen-Orient a en effet dominé le tête-à-tête de 35 minutes. Hier soir, le pape François et Vladimir Poutine ont porté une attention particulière, nous dit un communiqué de presse de la salle de presse du Saint-Siège, à la poursuite de la recherche de la paix, notamment en Syrie. Il y a urgence à faire cesser la violence, à apporter de l'aide humanitaire nécessaire à la population. Et pour ce faire, tous deux ont préconisé des initiatives concrètes pour une solution pacifique au conflit. Une solution qui privilégie la voie des négociations impliquant les diverses composantes ethniques et religieuses du pays, leur reconnaissant un rôle essentiel dans la société. Fervent partisan d'une solution politique et non militaire, le président Poutine a d'ailleurs remercié le pape pour sa lettre, envoyée à l'occasion du G20 de Saint-Pétersbourg en septembre, lettre dans laquelle François demandait aux grandes ce monde de ne pas rester inerte face au drame syrien. Mais bien sûr, leur entretien ne porta pas que sur le Moyen-Orient, la vie de la communauté catholique en Russie, la contribution fondamentale du christianisme dans la société russe. Et dans ce contexte, la situation critique politique des chrétiens dans certaines régions du monde ont également été évoquées, tout comme la défense et la promotion des valeurs au regard de la dignité de la personne, la tutelle de la vie humaine et de la famille. Comme l'expliquait hier soir le directeur de la salle de presse du Saint-Siège, les relations entre l'orthodoxie et le catholicisme étant du ressort des chefs des deux confessions, il n'en fut pas directement question. Pour autant, un geste symbolique a frappé les esprits. À l'issue de leur entretien, Vladimir Poutine a offert au pape une reproduction d'une des trois icônes les plus connues de Russie, une icône de la Vierge de Vladimir que le président russe puis le pape ont embrassée tour à tour sous l'œil des photographes.
Marie Duhamel. La Syrie, il en a été beaucoup question entre le pape et le président russe. Leur rencontre est intervenue alors qu'a été rendue publique lundi la date de la conférence de paix Genève 2. Elle se réunira le 22 janvier. Cette conférence a pour but de trouver une solution politique en Syrie. C'est la première fois en 3 ans de combats qui ont fait plus de 100 000 morts selon l'ONU que certaines des parties impliquées dans ce conflit armé se retrouveraient autour d'une table de négociation. Une conférence qui était en tout cas vivement souhaité par les églises locales. C'est donc avec joie que Mgr Jean-Clément Jambard, l'archevêque Melkite d'Alep, a accueilli la nouvelle, comme il le raconte à Antonino Gallofaro.
Nous avons décidé de prier beaucoup pour cette réunion, pour qu'elle ait lieu, préparer Noël en priant et en faisant le jeûne de préparation à Noël que nous avons dans notre rite oriental, et consacrer toutes nos prières et nos sacrifices pour que cette réunion ait lieu et qu'elle réussisse. Nous sentons que la main de Dieu est en train d'agir. Sa sainteté a fait un très bon travail. Il a vraiment bloqué une catastrophe en refusant qu'il y ait une frappe pour la Syrie. Ce sont des signes avant-coureurs d'une nouvelle ère de peut-être paix et de réconciliation entre les nations et surtout de paix en Syrie. Ces signes avant-coureurs nous aident beaucoup à réconforter nos fidèles et surtout à les encourager à rester dans le pays, à faire en sorte que ceux qui pensent quitter, émigrer, ajournent leur décision, qu'ils attendent un peu ce qui va arriver, ce qui va se faire, et que nous souhaitons vraiment positif.
Les Nations Unies évoquent l'espoir d'aller à Genève. Nouvel espoir aussi pour vous qui êtes sur place?
Déjà, ce qui s'est passé à Genève, entre l'Iran et les 5, ça a été une bonne note et un bon départ et un signe que Genève et la Réunion, ces efforts internationaux donneront un résultat. C'est un point très important de confortation et de sécurité pour nos fidèles, pour nous-mêmes, de renforcement de notre espoir et de notre confiance dans l'avenir.
Une bonne nouvelle, comme vous dites, pour toute la région aussi.
Toute la région était en grand danger. Vous savez, si la Syrie coulait, suivrait le Liban et puis peut-être d'autres pays aussi, ce sera la panique. Tout le monde essaierait de trouver moyen de trouver ailleurs des cieux plus cléments pour pouvoir vivre et continuer. Non, mais c'est très important ce qui se passe. Maintenant, s'il y a une solution, s'il y a une pacification, s'il y a une réconciliation et surtout s'il y a un effort de reconstruction du pays, nous pouvons espérer que nous puissions continuer, que nos fidèles continueront dans le pays et que nous continuerons à être présents et à témoigner du Christ dans cette partie du monde où l'Église est née et où l'Église doit renaître aussi.
Cette ligne, le dialogue, la solution politique, c'est celle voulue par le pape François. On se souvient de la journée de prière pour la Syrie.
Cette journée de prière pour la Syrie, ça a été une bombe. Ça a été quelque chose de très important qui a quand même bloqué pas mal d'agissements contre l'humanité et qui a éveillé beaucoup de conscience en Europe et même éveillé les consciences de certains responsables croyants. Et je pense que ça a eu beaucoup, beaucoup d'effets. Moi, je suis persuadé que cette position du pape a été un signe que lui tenait à ce que cette paix arrive et à ce qu'il n'y ait pas de frappe et à que la solution politique soit celle qu'il faut choisir. C'était un geste prophétique, à mon avis. Moi, je trouve qu'il faut être très reconnaissant au Saint-Père pour cette position, pour cette initiative extraordinaire qu'il a eue et qui n'a jamais eu lieu, finalement, avant. Il y a quelque chose de tout à fait nouveau qui a surpris, mais aussi qui a remué les consciences dans le monde entier. Tous ceux qui ont entendu cet appel ont considéré qu'il y avait quelque chose de grave qui se passait.
Monseigneur Jean-Clément Jambard, l'archevêque melkite d'Alep. Monseigneur Zenari, nonce apostolique à Damas, est lui aussi satisfait de la tenue d'une nouvelle conférence de paix à Genève. Il est content surtout qu'une date ait été fixée. Maintenant, reste à se rencontrer, à discuter et aborder les nombreux problèmes créés par presque 3 années de guerre.
Jusqu'à présent, les parties en conflit se sont parlées avec les langages des bombes, les langages des canons, et tout le monde attend de voir que les parties en conflit, finalement, après presque 3 ans, se parlent face à face comme des êtres humains et qui puissent traiter avant tout des questions humanitaire. Les gens attendent que certaines questions humanitaires soient touchées, comme par exemple l'accès aux aides humanitaires et dans tous les coins du pays, surtout les plus éprouvés. Vraiment, il ne faut pas se décourager par la grande quantité, énormité des problèmes qui restent à traiter, mais ça serait déjà quelque chose, un grand pas en avant, se pencher sur les souffrances, les grandes souffrances humaines de leurs frères et sœurs.
Monseigneur Zenari, nonce apostolique en Syrie, il était interrogé par Roberta Gisotti. Lundi s'est ouvert au Vatican l'assemblée plénière du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Pendant 4 jours, les différents membres du Conseil vont débattre autour du rôle de la religion dans la société civile. Parmi les réflexions proposées, celle de Mgr Bousquet, recteur de Saint-Louis des Français. Interviendront également d'autres personnes qui parleront cette fois des différentes traditions religieuses dans une société à majorité musulmane. À l'occasion du 50e anniversaire du Concile Vatican II et à l'issue de l'année de la foi, cette assemblée plénière est aussi l'occasion de réfléchir sur la situation actuelle du dialogue interreligieux dans diverses régions du monde et d'approfondir ce que doit être le rôle de la communauté chrétienne pour promouvoir de meilleures relations avec les membres des autres religions. Jean-Baptiste Cocagne a recueilli l'avis du cardinal Torrent, le président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, sur le rôle positif des religions dans la société, mais aussi sur le bilan de ces 5 dernières années d'activité.
En Europe, surtout, on a l'impression que la religion est un problème. Or, les religions sont des richesses. Et lorsque les croyants se mettent ensemble, ils sont comme un ferment dans la société. Et très souvent, comme je l'ai dit dans mon discours d'ouverture, les religions constituent des espaces d'écoute, de partage, dont la société tout entière bénéficie. Elles enseignent le respect de la personne humaine, le respect de ses droits fondamentaux, l'attention à la création, la question de l'écologie. Elle contribue aussi à relativiser le politique et l'économie. Et puis en fait, le fait de vivre en communauté, d'être une communauté de croyants, eh bien, ça favorise aussi la cohésion sociale d'un pays. Donc je dirais que les religions sont des facteurs de progrès humain.
Il y a aussi eu un rapport d'activité des 5 dernières années du Conseil pontifical. Quels sont les événements marquants, selon vous, ces 5 dernières années?
Vous savez, ces 5 dernières années, ça a été surtout de prendre contact avec la réalité, c'est-à-dire de voyager beaucoup, d'aller voir les gens sur place. Et moi, personnellement, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est la visite au Pakistan, l'admirable communauté chrétienne, des gens qui vont à la messe et qui ne savent pas s'ils pourront rentrer chez eux. Donc je crois que c'est un exemple pour toute l'Église.
Il y a aussi un pays, en particulier l'Irak, où les violences interreligieuses entre chiites et sunnites ont repris. Au milieu, les chrétiens d'Orient. Est-ce que vous allez aborder le thème particulier de l'Irak et quelle est votre vision sur ce pays?
Nous avons récemment mis en place une structure de dialogue avec les musulmans du pays. Et je pense que les chrétiens, ils ont des évêques très courageux, le patriarche en particulier. Ils savent que le chrétien du Moyen-Orient est une mission, une vocation, c'est de témoigner dans cette terre où Dieu s'est révélé. Parce que pour nous, évidemment, les sanctuaires, tous ces lieux de pèlerinage, ce ne sont pas seulement des monuments. Autour de ces monuments, il y a des communautés humaines avec leurs richesses, leur patrimoine, leur folklore, leur artisanat. C'est tout ça qu'il faut sauvegarder.
Le cardinal Le Torrent, le président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Avant de se quitter, juste un mot de l'homélie du pape lors de la messe matinale en la maison Sainte-Marthe. L'homme peut se croire maître du moment, mais le Christ est le seul maître du temps. Le pape a recommandé cette vertu de pouvoir discerner chaque moment de la vie et de l'espérance en Jésus pour voir la fin des temps. Deux conseils pour comprendre le cours du présent et se préparer à la fin des temps, la prière et l'espérance. Voilà, c'est la fin de ce magazine. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure.